Biston klack, biston klack, biston klack, nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre, cette phrase est notre devise, notre devise. Biston klack, biston klack, biston klack, d'accord pour les chanteurs, poètes. Biston klack, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête, la poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie, philosophie. Biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
Que tu as la maison douce, girofle les girofles, l'herbe y croît, les fleurs y poussent, le printemps est là. Dans la nuit qui devient rousse, girofle les girofles, l'avion la brûlera, l'avion la brûlera. Que tu as de beaux champs d'orge, girofle, girofla, ton grenier de fruits regorge, l'abondance est là. Entends-tu souffler la forge, girofle, girofla, canon les faucherales, canon les faucherales. Que tu as de jolies filles, girofler, girofla, dans leurs yeux où la joie brille, l'amour descendra. Dans la plaine on se fusille, girofler, girofla, soldat les violera, le soldat les violera. Que tes fils sont forts et tendres, girofle, girofla, ça fait plaisir les entendre, à qui chantera. Dans 8 jours on va te les prendre, girofle, girofla, corbeau les mangera, corbeau les mangera. Tant qu'il y aura des militaires, soit ton fils, soit le mien, il ne pourra y avoir sur terre pas grand-chose de bien. On tuera pour te faire taire par derrière, comme un chien. Et tout ça pour rien, et tout ça pour rien.
Vous venez d'entendre Girofle, Girofla, c'est une chanson pacifiste traditionnelle, qui était interprétée là par Claude Vinci. Claude Vinci, à qui nous consacrons cette 3e émission, à partir de l'entretien qu'il a bien voulu nous accorder au mois d'août. 3e émission un petit peu particulière, qui va se démarquer des 3 autres, puisqu'il y aura une série de 4, puisque dans cette émission, nous évoquerons son passage dans la guerre d'Algérie et les conséquences. Et c'est quelqu'un qui a fait un parcours tout à fait particulier et en très grande cohérence avec ses idées dans cette période de trouble où tant se sont fourvoyés. Je vous propose donc de le retrouver et tout en fin d'émission, je vous indiquerai les références des morceaux que nous aurons entendus. Restez à l'écoute de ce témoignage très fort, très beau.
On arrive à cette période d'Algérie, donc vous faites le service une première fois, puis vous allez devoir le faire une deuxième fois avec des conséquences considérables.
Rappeler en 56, oui, j'ai fait mon service militaire donc de mai 53 à septembre 54, et j'ai été rappelé en mai 56, au moment de Guy Mollet, les pleins pouvoirs. J'ai participé à des colloques au Parti communiste dernièrement sur cette histoire des pleins pouvoirs. Ils m'ont invité. Ça va certainement sortir d'ailleurs en bouquin. Parce que beaucoup de dirigeants de l'époque ont remis en cause cette approbation des pleins pouvoirs. J'avoue qu'à l'époque, moi-même, et je l'ai dit au cours de ce colloque, moi-même j'étais aussi pour les pleins pouvoirs, étant donné qu'on avait élu en janvier 56 un gouvernement de gauche qui s'était fait élire sur paix en Algérie. Les pleins pouvoirs, on pouvait penser que c'était justement pour faire la paix en Algérie. Et j'étais, à l'époque, j'étais absolument pour ces pleins pouvoirs qui allaient enfin peut-être donner les moyens à ce gouvernement de négocier avec le FLN. Ah ouais. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est un peu dans cet esprit, d'ailleurs, que moi, j'avais pas envie de partir. J'ai toujours été un peu anarchiste. Ah oui. D'ailleurs...
C'est aussi une question que je voulais vous poser, on y viendra peut-être
plus tard. Je devance.
Concilier votre inféodation à un parti très structuré et puis ces tendances personnelles que vous avez, assez libertaires et que vous avez mis en acte
bien sûr,
un certain nombre de fois. Quoi.
Oh, on est deux dans ce cas-là.
Qui vous ont même valu une exclusion du parti.
Non, oui, parce que... Donc, je suis parti. Dans les normes, j'étais très conformiste, puisque j'étais membre du parti, et j'ai demandé à ce que ce soit à l'ordre du jour d'une réunion de ma cellule. Et il y a eu un vote sur... J'y vais-t-y pas. Et le vote a été en faveur 19 fois contre 3, dont la mienne, bien sûr, et deux copains pieds noirs qui connaissaient bien l'Algérie. Mais enfin, 19 voix contre 3, c'était très important. Et je suis parti, j'ai obéi. En pensant faire mon travail de communiste au sein de l'armée, c'est vrai. Et pendant un bon bout de temps, d'ailleurs, on a mis plus de 8 jours pour descendre à Marseille, parce que il y avait plein... D'autant plus que mon régiment, il y avait beaucoup de cheminots dans ce régiment, et de gens sortant des arts et métiers, ce qui était mon cas, parce que j'ai fait des études des arts et métiers.
J'étais aussi ingénieur des arts et métiers.
J'ai jamais pratiqué, alors n'en parlons pas.
Vous avez eu le diplôme.
J'ai eu le diplôme, mais qui ne m'a jamais servi. Donc, 8 jours pour descendre, ils savaient que pour bloquer un train, il suffisait de couper un tuyau, les tuyaux qui sont entre les wagons. Moi, je ne savais pas ça, et ce sont les freins. Alors, dès qu'on coupe un tuyau, ça arrête tout le train. Alors, à un moment donné, les cheminots qui conduisaient le train, ils n'avaient plus de tuyaux, et on s'est retrouvés dans un petit bled, pas très loin de Lyon, à Livron, où les cheminots de Livron ont refusé de donner des tuyaux au conducteur de la machine. Et on est tous descendus du train, on est resté 2 jours à Livron, accueillis par la population. D'ailleurs, j'ai envoyé un bouquin à la mairie de Livron, en dédicaçant aux habitants de Livron de mai 56, j'ai pas reçu de réponse. Je ne sais pas le maire de Livron ce qu'il est. Il doit pas être peut-être bien, je ne sais pas. Mais enfin, il ne m'a pas répondu. Il aurait pu accuser réception, au moins.
Je suis né en ces temps de fin de Balbuzette, en ces temps-là j'avais est encore de la fête. Dans un dernier sanglot s'éteignent les lampions. Sur les parquets cirés, les couples se défont. Petites mains et cousettes ne vont plus aux guinguettes. L'ouvrier des faubourgs n'y vient plus faire un tour. L'on va plus en chantant dès les premiers beaux jours. Près du fleuve à nageant, y rencontrer l'amour. La jeunesse en ses temps est partie pour la guerre. Sous un soleil de feu, au Djabel de l'enfer, garde lion sur les rails d'un convoi militaire. Un groupe de femmes se couche. Là, on ne veut plus faire la guerre. Dans des caves enfumées, Boris met de la danse. Le jazz fait résonner des rythmes qui balancent. Des marteaux, des faucilles sur des chars envahissent de peuples qui sont frères et pourtant se haïssent. L'accordéon déchu rengaine ses rengaines. De son souffle meurtri s'échappe un air de peine. Dans les cafés fleuris, aux terrasses ombragées, l'Amérique est entrée souffler sur nos pensées. Je suis né en ces temps où l'on faisait la fête, où l'on savait danser au son d'un bal musette. Excusez si mon chant est un peu nostalgique. Aujourd'hui la chanson, elle nous vient des Amériques.
Donc on est resté 48 heures à Livron, chez les habitants, et ce sont les CRS qui ont été obligés de faire venir pour nous faire remonter dans le train, parce qu'on était tous, ça s'appelait à l'époque un bataillon de marche, hein. L'origine, c'était le 5e génie de Versailles, mais on appelait ça un bataillon de marche. Nous, dans le bataillon de marche où j'étais, nous étions tous rappelés, tous les officiers, tous les sous-offs et tous les soldats, tous rappelés. Ça doit être une des raisons pour lesquelles, quand j'ai déserté, on ne m'a pas porté déserteur. J'ai jamais su pourquoi. c'est l'une des raisons. Il y en a peut-être d'autres. Il y avait tellement de bordel. Mais
cette raison. Peut-être que les gens qui étaient avec vous ne sont pas acharnés à signaler la disparition.
Je suppose. Je ne suis pas allé leur demander.
Venir un petit peu plus tard. Ouais. Pour l'heure, vous partez dans les conditions...
Je peux fumer une cigarette. Vous en prenez une.
Non, merci.
Non, ça ne vous gêne pas.
Non,
ce sera juste une.
Si vous avez besoin de fumer, aucun problème.
Oui, un peu de salive.
Donc votre convoi, comme d'autres trains, soit par les gens qui participaient, soit par la population, a été retardé à défaut d'être arrêté.
Ah oui.
Bon, des choses qu'on sait, peut-être pas assez bien d'ailleurs, mais il y a eu un certain nombre d'actions de ce type-là, d'opposition à la guerre d'Algérie.
Quoi. Et oui, donc c'était assez réjouissant tout de même. Alors je me disais, bon, ben, j'ai bien fait de partir là, je fais mon travail de communiste à l'intérieur de l'armée. Mais petit à petit, parce que l'armée avait un service psychologique très fort... Petit à petit, l'ambiance est complètement dégradée.
Paraît sûr. Très bien dans votre livre. C'est vrai que le fort des militaires, c'est que c'est un laminoir psychologique, leur système.
Complètement.
Et qu'il faut vraiment une trempe particulière pour résister. La plupart des gens finissent par...
Par accepter, par rentrer dans le moule.
Sacrifie ou on laisse sacrifier un des copains pour remonter tout le monde contre l'ennemi.
Bien sûr.
Ces techniques-là ne les arrêtent pas. Quoi.
Bien sûr.
Vous avez été témoin de tout ça.
Ben, j'ai été témoin surtout parce que jusqu'au 8 août 1956, on n'a pas eu de problème. On était, pour ainsi dire, en vacances, au soleil, auprès d'un barrage, derrière lequel il y avait un lac dans lequel on se baignait tous les après-midi. Jusqu'au 8 août, il n'y a rien eu du tout. Tout se passait très bien. Le 14 juillet 56, on a fait une espèce de manif, où dans le camp où on était au barrage du Xob, eh ben, on a fait un défilé en criant l'Algérie aux Algériens. Et il y avait quelques officiers qui criaient comme nous l'Algérie aux Algériens. Mais ça n'avait aucune répercussion, puisqu'on était seuls là, au barrage. Hein. Mais enfin, voilà. Et puis, il y a eu ce 8 août. Alors là...
Ce 8 août, c'est un événement considérable. Il y a deux manières de faire. Vous choisirez. Soit vous nous lisez votre texte, qui serait une démarche intéressante, ou soit vous préférez, peut-être je pressant que c'est peut-être ça que vous allez préférer, nous raconter l'événement un petit peu comme vous l'avez conté dans le livre. Je ne sais pas ce qui est le mieux.
Oh, c'est peut-être plus rapide de le raconter comme ça. On a été désigné. Il était prévu une grande action dans la région... dans une région qui s'appelle les Portes de Fer, c'est à l'est de la Kabylie, et nous devions, nous, une action menée par les parachutistes et les légionnaires, et nous devions être en appui de cette action, de cette grande, une action d'envergure. Mais il y avait plein de bataillons de marche qui étaient en appui de cette action. Et on s'est donc retrouvé dans des rochers à 500, 600, 700 mètres de toute une série de douars qui étaient en haut. La région des Portes de Fer, il y a des grottes, la route d'ailleurs passe dans une grotte, et de chaque côté c'est des rochers, et il y a toute une partie avec des douars en haut de rochers. Et nous on était en bas, en face, et il y a les hélicoptères qui ont fait débarquer les uns après les autres, les bérets rouges, les légionnaires bérets verts, à 600-700 mètres de nous, et nous n'avions rien à faire, sinon à protéger éventuellement les paras et les légionnaires, si toutefois ils étaient attaqués, et bon, ils n'en savaient rien, personne ne savait. Et puis les paras et les légionnaires ont attaqué tous les douars au lance-flammes, à 600 mètres. C'est affreux, quoi. C'est
des femmes, des enfants. Ça ressemble plus à un massacre qu'à une attaque.
Ah oui, c'est un massacre.
Parce qu'il n'y avait pas d'hommes en armes en face d'eux.
Il aurait pu y en avoir, ça il ne le savait pas. Il aurait pu y en avoir, peut-être, mais ce n'est pas une excuse pour attaquer. Dans tous les douars, il n'y avait que des femmes, des enfants, des vieillards, et puis tous les ânes, les chèvres, les moutons, et les maisons. Ils ont fait flamber tout ça au lance-flammes. Les femmes, les enfants, c'est affreux. Alors là, c'est là où ça, avec les copains de mon bataillon, moi j'ai essayé de tirer. Et j'ai pas su me servir de... Je sais même pas comment s'appelle l'arme que j'avais, un PM, je sais pas trop quoi, un PM-49... Et ben je sais pas, j'ai pas su m'en servir. J'ai essayé de tirer sur les paras légionnaires. Il y a des copains qui s'en sont aperçus et qui m'ont fait remarquer. Quand on est rentré au camp en fin d'après-midi, c'est là où j'ai pris la décision de déserter, parce que je sentais bien que j'allais recevoir une balle dans le dos. Avant tout. C'est pas un acte de courage, c'est plutôt un acte de peur.
Et dans le moment, bon, c'était l'impuissance pour vous.
L'impuissance, ah oui.
Hein, dans votre vous évoquez beaucoup Oradour.
Mais oui, d'autant plus que je suis originaire de la région d'Oradour et que Oradour, le 10 juin 44, nous, on était au courant, nous, le 11 juin 44 d'Oradour. Donc Oradour, pour moi, ils étaient en train de faire un Oradour, des Oradour, parce qu'il y avait plusieurs douars, il y avait 5 ou 6 douars, c'était long, je sais pas, sur une dizaine de kilomètres, au moins.
Et cette action militaire, elle répondait à quoi? Il y avait eu... Vous n'avez jamais su?
Oh, bah ça, je n'en sais rien. Je n'ai jamais demandé.
C'était pas la répression face à quelque chose que tout le monde avait su qui s'était passé peu de temps avant ou...
Je sais absolument rien du tout. J'ai recherché dans des bouquins, voir si on parlait. On a parlé d'actions importantes. Ça n'avait peut-être pas une importance assez grande pour qu'on en ait parlé. Et puis, peut-être aussi que c'est dans les archives cachées. Parce que ce qui s'y est passé, c'est pas très beau tout de même.
Et de ce que vous avez vu, il n'y avait pas de tir d'armes, même du côté des militaires français. C'était uniquement lance-flammes.
Oh, il a dû... Non, ben les paras et les légionnaires ont dû tirer aussi. Oh ben oui, bien sûr. Bien sûr, ils ont dû tirer, et puis ils ont terminé par les lance-flammes. Non, je pense qu'ils ont dû tirer. Oh oui, il y a eu... Oui, il y a eu des tirs, mais enfin... Ça s'est terminé de cette façon, c'est... Ça, les lance-flammes, ça m'a tellement marqué que... J'avoue, je me souviens plus très bien. Est-ce qu'il y a eu des tirs avant
le bilan en termes de morts, on ne sait pas.
Non, parce que nous...
Vous dites vous-même nous, que dans on les a jours évacué. Après, vous en avez parlé à Alger, personne
ah, oui.
était au courant, de, et en France non plus.
Oui.
Ces actions militaires.
Ah, oui. Oui, je vous dis, peut-être qu'on retrouvera un jour dans des archives ou algériennes ou françaises, peut-être qu'on retrouvera. J'avoue que moi j'ai quelques bouquins, parce que tout ce qui concerne la guerre d'Algérie, j'ai pas mal de documents, de bouquins. J'ai jamais retrouvé de documents sur... sur cette action, qui était une action commandée automatiquement, parce qu'on ne se déplace pas comme ça avec des lance-flammes sans...
objectif.
Bah oui.
Il y a une chanson près d'Amoucha, c'est comme ça.
Ouais.
Elle n'est pas... Je pensais qu'elle était debout pour les paroles.
Non, elle est de Georges Leprince.
Ça veut dire qu'il a mis en parole des événements qu'on lui avait racontés.
C'est lui-même.
C'est lui-même qui avait écrit.
Oui. Et comme il savait... C'est un instit, voilà. Il est instit à Chartres. Et c'est à l'occasion de cette chanson qu'on a fait connaissance. Comme il savait que j'avais été en Algérie, il m'a envoyé ce texte et c'est Philippe Gérard qui en a fait la musique. Mais par contre, moi j'ai écrit une chanson un peu plus tard qui s'appelle « Celle que je n'aurais pas voulu faire ».
Près d'Amoucha, en Kabylie, Oued El Kébir et la rivière, les blissons jaunes et les épis qui se recouvrent de poussière, chante le pain des partisans, près d'Amoucha, en Kabylie, perdu sous le soleil brûlant, Oued El Kébir coule sans bruit. Mais un matin que le grillon chantait son chant sonore et doux, on vit au loin à l'horizon
et sur les plateaux de partout, l'âpre lumière des mitrailleuses qui déchirait la plaine grise en longues saccades nerveuses, tout près d'Amoucha l'insoumise. Les filles nues au sein de lait attachent leurs poignets graciles, et sur le ventre bien rasé on a branché les crocodiles. Meurent les filles aux grands yeux noirs, mais de leurs dents toujours serrées, aucune plainte, aucun espoir ne sont sortis de leurs baisers. Ils sont partis et les baignoires sont là devenues inutiles. Plus jamais ne pourront s'asseoir à l'intérieur tous les Kabyles. Ici est mort avec ton père, ta sœur qui n'avait pas 12 ans, dit la maman, c'était la guerre, ils étaient 10, nous étions 100. Près d'Amoucha, en Kabylie, où est Delkébir et la rivière, les blés sont rouges et les épis qui se recouvrent de poussière. Chante l'espoir aux survivants, près d'Amoucha, en Kabylie, perdu sous le soleil brûlant, où est Delkébir coule sans bruit.
Donc le lendemain matin, discrètement, vous vous montez
je
dans un train,
direction
Alger.
Absolument, bref, carrément, militaire. J'avais pas d'habit civil de toute façon, en militaire, mais en ce qu'on appelle en tenue de sortie. Ouais, et dans un train bourré, complètement bourré, dans le Constantine Alger, que j'ai pris à Borjouaré Ridge, qui était un peu la ville la plus proche de notre campement au barrage, qui était d'ailleurs un lieu où on venait assez souvent pour se ravitailler, enfin... Je connaissais bien et je savais que tous les matins il y avait un train pour Alger à 8h du matin. Mais je suis parti du camp du barrage beaucoup plus tôt dans la nuit. Je suis parti à 7h du soir, dès que la nuit est tombée, avec ma Jeep, puisque j'étais chauffeur de Jeep, que j'ai laissé dans une ruelle de Borjouaré-Ridge. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette Jeep ? Ils ont dû la retrouver, pourtant. Je ne sais rien. Rien, rien, rien. Puisque je n'ai pas été porté déserteur. Bien sûr, je suis rentré en France avec quelque chose qu'on a trouvé. J'ai pris contact. J'avais des adresses par mes copains pieds noirs de Levallois, de ma cellule. J'avais des adresses de copains du PCA, du Parti communiste algérien, à Alger. Alors je suis allé à Alger chez ce copain, qui m'a mis en contact avec des responsables du FLN, parce qu'ils étaient en contact avec le FLN. D'ailleurs, à cette époque, au mois d'août 1956, c'était même l'époque où il y avait des pourparlers très, ça je l'ai appris après, bien sûr, très important au plus haut niveau pour savoir si le PCA entrait dans le FLN, si les maquis rouges, les maquis dépendants du PCA entraient dans la LN. Il y a eu à peu près à cette époque le fameux congrès de la Soumam, mais ça on a appris tout ça après. Et ça m'a été confirmé aussi par Henri Allègue, qui est un ami Oui, donc, et le Parti communiste algérien avait décidé que les maquis rouges entreraient dans la LN, mais que le PCA ne se dissolverait pas dans le FLR. Voilà la décision définitive qui avait été prise. Ça, c'était en pleine discussion. Je suis arrivé, moi, et j'ai eu des contacts. Mais alors, on s'est rendu compte que, pour mon service militaire, j'étais sursitaire. Et que, normalement, si je n'avais pas été sursitaire, j'aurais dû faire mon service militaire au premier contingent de l'année 52, qui n'a pas été rappelé. Et mes papiers civils portaient ma date de naissance, comme quoi j'aurais dû faire mon service militaire. Et oui, 52-1, alors que les rappels ont commencé en 52-2. Et moi, j'étais 53-1. 52-2, 53-1, 53-2 ont été rappelés. Mais 52-1, j'aurais dû faire mon service militaire là. Mais grâce aux arts et métiers, j'étais sursitaire. Donc, mes papiers d'identité portaient ma date de naissance. Alors, on dit, mais on va te faire rentrer à Paris.
Ce qui vous a permis voilà. De je tenter suis... le coup de et rentrer oui.
Tenter
en
le coup.
Toute régularité.
En toute régularité, avec un des responsables du FLN qui devait entrer en France... pour s'occuper, pour prendre une part de responsabilité de la Fédération de France du FLN. J'ai pris un avion, alors là en civil naturellement, parce que le copain qui m'a hébergé à Alger, bah, il m'a vêtu en civil, très beau d'ailleurs.
Vous aviez, avant de quitter Alger, émis l'idée de... d'aider le FLN depuis l'Algérie, mais on vous a découragé, quoi.
Non.
J'ai bien compris. Enfin, on a pensé qu'il ne serait pas judicieux qu'un Français métropolitain, même sympathisant...
Ah, en Algérie même oui, en Algérie. Ah, oui. Non, que les mêmes problèmes se poseraient de manière différente, mais ils se poseraient, ça... Aussi bien les camarades du FLN d'Alger que les camarades du PCA m'ont dit non, et c'est là où on a trouvé cette histoire de que j'étais né en le premier semestre 52, donc que je pouvais ne pas avoir été rappelé, et que je suis rentré en France. Alors là, en France, sur le livret militaire, on a toujours deux adresses, sa propre adresse et l'adresse de ses parents, au cas où. Alors, je suis rentré en contact chez moi, mon adresse, et puis avec mes parents, et puis je suis allé me planquer, justement, dans la campagne de Montant et Signoret, en Normandie. Et je restais en contact avec mon domicile à Levallois et avec mes parents. Et les gendarmes ne voulaient pas me réclamer. Et ça a duré quelques mois où je restais toujours en contact. Et au bout de 3 mois, je suis revenu à la vie civile comme si de rien ne s'était passé. J'étais à l'époque, je travaillais parce que j'avais commencé un petit peu à chanter, mais c'était pas il fallait bien que je travaille pour gagner ma croûte. Et je travaillais dans une boîte d'antiquités de décoration au Faubourg Saint-Honoré.
Ça, on l'a pas dit, mais une autre corde à votre arc.
Ah oui, j'ai fait les arts déco.
Des études d'art déco.
Oui, ça pendant le service militaire. Et avec l'un des deux patrons de la boîte où je travaillais, on était très amis. Je lui ai tout expliqué, je suis revenu travailler en disant que j'avais été libéré avant les autres, on trouvait un truc, quoi.
C'était pas trop angoissant quand vous étiez à la merci tous les jours de voir débarquer les gendarmes à la recherche du déserteur?
Oui, tous les jours,
toutes les nuits,
oui.
Là, avec eux.
Mais, écoutez, j'étais à Auteuil avec Simone Signoret. Compagnie agréable, non? À cette époque-là, elle était encore casque d'or. Hein. Je ne l'ai jamais touchée.
Oui, mon temps. Vous évoquez la jalousie de mon père.
Ah, bah oui, mon temps. La première fois où il est arrivé, il nous a traité. Alors, les tourtereaux, attention, je suis rital, hein, et jaloux. Ah non, c'était une femme formidable, Simone.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. France, de Bretagne en Provence, et je crierai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Voilà, revenu à la vie civile, en pleine guerre d'Algérie, mais en France et en civil, et pourtant vous allez vous retrouver plongé dans le
combat. J'ai travaillé avec la direction de la Fédération de France du FLN, et j'ai travaillé dans le secteur le plus... le nerf de la guerre, c'est-à-dire la récolte des cotisations qui arrivait tous les mois sur Paris et qui arrivait chez moi d'ailleurs. Et puis ben, on faisait le décompte, et puis après, il fallait passer tout ça, ou en Suisse, ou en Italie, ou en Allemagne. J'avais un peu la responsabilité de tout ça, avec interdiction de la part du trio, parce que tout marchait comme dans la résistance, d'ailleurs, par trio, hein, les fameux triangles. Le triangle de tête, avec interdiction de leur part... de travailler avec le moindre réseau, parce qu'il y avait des réseaux qui ont essayé de me contacter, d'ailleurs, c'était toujours niette. interdiction aussi d'aller dans des manifs, enfin, il fallait que...
Pourquoi ils essayaient de me contacter, ces réseaux?
Oh, bah parce qu'ils avaient dû apprendre quelque part, il y a toujours des fuites pour entrer dans leur réseau, et puis... Bon, il y avait notamment le réseau Janson, où il y avait plein de gens du spectacle que je connaissais déjà avant, et qui connaissaient mes idées, et qui savaient que j'avais été rappelé en Algérie, et que j'en étais revenu aussi, mais qui essayaient de me contacter pour entrer dans leur réseau.
Oui, sans savoir que vous étiez impliqué dans une autre action.
Ah oui, bien sûr, et même sans savoir que j'avais déserté. Ben, je les ai croisés, tout de même.
Et cette aide apportée au FLN, je vous pose la question, comme les Français qui voient les choses d'un peu loin se la posent, comment vous la viviez? Parce qu'on peut dire que c'était une réaction épidermique et violente à ce que vous aviez vu, le massacre, ou est-ce que c'était plutôt une analyse politique de fond qui disait qu'il faut que les Algériens gagnent leur indépendance?
Ah, ben oui, bien sûr. Mais ça, de la même façon que quand j'ai été rappelé, mon intention profonde était de ne pas partir et d'éventuellement d'aider les Algériens dans leur guerre d'indépendance, c'est sûr.
Et comment on vivait l'antagonisme du fait que aider les Algériens, c'était faire quelque chose contre les Français, contre certains Français?
Il faut bien, à un moment donné, passer d'un côté ou de l'autre. La révolution de 89, les révolutionnaires n'ont pas fait que des choses propres. Les communards n'ont pas fait que des choses propres. Les maquisards n'ont pas fait que des choses propres. Le FLN n'a pas fait que des choses propres. J'ai jamais participé à des trucs comme ça. Hein. Je me suis cantonné aux problèmes financiers. Hein. Uniquement jusqu'en 62, ça n'a été que la finance. Mais on est obligé de prendre parti d'un côté ou de l'autre. Moi, je prends parti pour les communards, même s'ils ont fait des saloperies. Disons le mot, je prends parti pour tous les maquisards de 40-45, même s'ils ont fait des choses atroces, etc., etc. On ne peut pas... à un moment donné, c'est difficile, naturellement, mais... On est obligé de prendre parti, ou alors on est comme ça entre les deux, et on devient plus ou moins béni. Oui, oui, alors. Ce qui n'était pas mon cas. J'avais tout de même une formation idéologique assez importante, de par mes origines, de par ma famille, de par ma formation. Je fais l'école fédérale du parti.
Justement, par rapport au parti, vous étiez un peu en porte-à-faux.
Ah, là, complètement en porte-à-faux, la preuve en est.
C'était pas leur ligne de soutenir
le FLN
sur ces bases-là.
Ben oui, la preuve en est, c'est qu'à un moment donné, tout de même, je suis allé voir mon secrétaire de section et je lui dis, ben voilà ce que j'ai fait, j'ai déserté et je travaille avec le FLN en France. Et j'ai été exclu, soi-disant diplomatiquement, c'est ce qu'on m'a dit, mais j'ai été exclu du parti. Il a fallu que je rende toutes mes cartes. On m'a dit, tu comprends, si on te trouve, qu'on t'arrête avec une carte du parti, ça la fout mal pour le parti, etc.
Exclu à cause de la désertion.
À cause de la désertion. et de l'aide du travail. Ah, je leur ai dit. Oui. J'ai dit les deux. Ma désertion et l'aide que j'apportais. Je leur ai tout expliqué, ce qui s'était passé avec le PC à Alger. Et ça, on ne peut pas te garder. Il faut que tu rentres toutes tes cartes. Tu te rends compte. Si on t'arrêtait et qu'on trouve chez toi une perquisition, qu'on trouve chez toi des cartes du parti, là, c'est la fin du parti.
Et ça, ça doit être très éprouvant, non, pour quelqu'un qui...
Ah oui, oh oui, c'est très éprouvant. Ça m'a pas tellement étonné, parce que il y avait tout de même ce vote de ma cellule fin avril 56, où on avait tout de même été 19 contre 3 à voter pour que je parte. Donc ça m'a pas trop étonné. Et puis moi, de toute façon, mon choix est fait, et ça, pas question de faire autre chose, d'arrêter.
Donc ce travail, vous
et avez... dès le 1er juillet 62, j'ai demandé ma réintégration. Et ça a demandé 2 ans pour que je sois réintégré. 2 ans. Où tous les 3 mois, j'étais convoqué par la fameuse CCCP. C'est bizarre, parce que en alphabet cyrillique, ça veut dire URSS, la Commission Centrale de Contrôle Politique, et qui tous les 3 mois me convoquait et disait « Alors, tu as révisé tes positions ?» Ben, je dis non, et puis je continue à travailler. Écoute, on se revoit dans 3 mois, et ça a duré 2 ans. Et en 64, d'ailleurs, en 64, donc, j'ai enfin été réintégré, et je dis, mais là, je suis peut-être de mauvaise foi, mais je dis que c'est certainement... à cause du succès de mon disque 20 ans déjà, et que allez, en 64, ça faisait bien tout de même d'avoir Claude Vinci dans ses rangs.
Vous n'êtes pas le seul cas de ce type de réintégration.
Ah, ouais, non, je ne suis pas le seul cas, c'est malheureux.
Donc vous aviez quand même passé 4 ans en France à militer à risque et puis efficacement, quoi. Pour la libération d'Algérie. Quoi.
Non, mais j'ai oublié de vous dire que en 58, parce que j'ai continué à être payé comme si j'étais en Algérie. Et en 58, je suis convoqué à mon régiment de base, si on peut dire, le 5e génie à Versailles. Je suis convoqué. Alors là aussi, j'y vais pas. Bon, j'y vais. Et on me dit, on n'y comprend rien dans votre dossier. Normalement, vous avez été rappelé en mai 56. Tous ceux, dans votre cas, ont été libérés en novembre 56. Et vous, on vous a toujours dans nos effectifs comme étant en Algérie. Ben, j'ai dit oui. D'ailleurs, j'avais plus ou moins l'intention de vous écrire parce que je trouvais bizarre d'être payé comme si j'étais en Algérie. Alors l'adjudant m'a dit, oh, vous savez, c'est un tel bordel. Et on a tellement de cas différents. Il y a ceux qui sont rappelés, ceux qui sont appelés, font leur service militaire. Et au milieu de tout ça, on ne sait plus où on en est. Allez, au revoir, à bientôt.
C'est ça quand même qui peut nous laisser à penser que vos collègues ne vous avaient pas dénoncé comme déserteur, parce que
l'auraient inscrit. Ah bah oui, ça bien sûr.
Il y a eu un minimum.
Non, mais bien sûr,
je
n'ai pas été porté déserteur. Ça, c'est sûr que si j'avais été porté déserteur, j'aurais été recherché par des gendarmes. Ça, c'est sûr. Non, mais là. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
C'est-à-dire qu'ils devaient être aussi traumatisés que vous parce qu'ils avaient vu le même jour et que Ils ont compris.
Ah, c'était pas forcément les mêmes. Oh ben non, en deux ans, ça change. Ben non, puisque.
Non, mais je veux dire, là-bas, le jour où vous êtes parti.
Le 8 août.
On comprend qu'il soit parti.
Oui, c'est possible aussi, oui.
Si on essaie de.
Bien sûr.
Vous avez aussi aidé des gens à se déplacer à travers les frontières.
Ah oui. Oui, d'ailleurs j'ai été invité en janvier 2001 pour le bimillénaire d'Alger. J'ai été invité à Alger par le gouvernorat d'Alger. Et j'ai retrouvé des responsables de la Fédération de France qui allaient souvent en Allemagne, notamment, parce que la grande direction du FLN hors Algérie était en Allemagne, en contact avec la Tunisie, l'Égypte, mais c'était en Allemagne. Hein, pour l'Europe, c'était en Allemagne. Donc j'ai véhiculé pas mal de gens. Et en 2001, là, quand je suis retourné à Alger, on me présente un gars avec son nom. Bon, salut. Et le gars me dit, mais il me semble qu'on se connaît. C'est bien possible, mais j'en ai connu pas mal. Mais enfin, souviens-toi, Pedro, ça ne te dit rien ? Oh, Pedro, bah oui, mais je connaissais que Pedro, je connaissais pas son vrai nom. Et Pedro, alors on est tombé dans les bras l'un de l'autre, on ne s'était pas vu depuis 40 ans. Eh oui, en plus. Mais Pedro, quand il m'a dit Pedro, tout de suite, oui, Pedro, là je connais, oui. Putain, le nombre de fois que Pedro, je l'ai véhiculé en Allemagne.
Et vous passiez les frontières par des petites routes sans poste de douane ou vous aviez des faux papiers?
Non. Ah, moi j'avais pas de faux papiers. Les Algériens avaient des faux papiers. Non, moi j'avais pas de faux papiers. J'ai toujours transporté avec ma propre voiture, avec les papiers de la voiture. J'ai jamais eu, là aussi j'ai eu du pot, bien sûr, parce que. Et puis tous les passages de fric, il y en a eu. J'ai pas fait tous les passages, hein. J'ai fait aussi, j'ai constitué des relais, mais j'en ai fait moi-même un certain nombre. Du fric qui devait arriver à la banque du FLN à Genève. Mais j'en ai fait pas mal tout de même.
Une question qu'on peut se poser, elle se pose avec les résistants de la guerre de 40, quand je parle avec eux souvent, ils me disent qu'aujourd'hui encore, ils ne peuvent pas dire un certain nombre de choses qui risquerait de leur valoir des ennuis, hein, du style, des responsabilités de mort de Français. Alors, on peut toujours discuter que c'est des questions de guerre, mais il y a des gens, on a bien vu avec certaines affaires, qui sont prêts à repenser les choses en arrière pour encore aujourd'hui porter des accusations contre des actes militants de cette époque-là. Vous êtes un peu dans la même problématique aussi ou...
Pas en ce qui concerne l'Algérie. Je crois que maintenant l'Algérie, mais par contre je me suis souvent posé la question, j'en ai discuté avec des copains, avec Henri Alleg notamment, sur l'aide aux Palestiniens. Puisque de l'Algérie, je suis passé à la Palestine, puisqu'au début, ça, à la demande du parti, par contre. À la demande du parti. Mohamed Boudia, qui était le fameux gars avec lequel j'étais revenu d'Alger en avion, qui a été nommé en 1962 directeur du Théâtre National Algérien, Au moment du coup d'état de Boumdiane, il était benbelliste et il est rentré en France, où il a continué à travailler dans le théâtre, mais il était en contact avec le Parti communiste palestinien. Et il m'a été présenté d'ailleurs par le parti, alors que je le connaissais depuis 1956. Mustapha, c'était Mustapha. Alors, quand on me l'a présenté, d'ailleurs, on me l'a présenté sous son nom, Mohamed Boudia, j'ai dit, mais non, c'est Mustapha. Ah là là. Ça, j'ai longtemps hésité, parce que c'est une histoire qui n'est pas terminée. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison.
Vous évoquez les attentats contre lui. Il décédera.
Et oui, il a été.
Attentat,
et Curiel, qui lui aussi. Et oui, bien sûr, j'ai travaillé avec les deux. Et puis après, comme les filières existaient, j'ai continué à suivre les filières existantes. Jusqu'à la disparition de l'URSS. Parce que là, ils ont. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est une autre histoire, ça.
Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle où je suis allé un été, dans un pays de soleil outre-mer, que certains désiraient conserver. Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle à laquelle on m'a emmené pour m'obliger à taper sur des frères qu'au contraire j'aurais préféré aider. Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle pour laquelle on m'a forcé à incendier un douar, porte de fer, à tuer femmes et gosses affolés. Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle où l'on voulait me fusiller, car je refusais d'être tortionnaire au nom du pays de la liberté. Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle où j'étais du mauvais côté, du côté des gros marchands de misère, pas du bon côté des opprimés. Celle que je n'aurais pas voulu faire, vous comprendrez pourquoi j'ai déserté.
Nous arrivons ainsi au terme de cette troisième émission consacrée à Claude Vinci à partir de l'entretien qu'il a bien voulu nous accorder. Cette émission particulièrement forte sur le thème de ce qui s'est passé pour lui pendant la période de la guerre d'Algérie. Je vous signale que vous pourrez retrouver les événements auxquels il fait allusion dans son livre « Les portes de fer » qu'il a publié en 2002 au temps des cerises, qui est toujours disponible en librairie, tout comme cet autre récit « La trop courte vie d'Adrien », toujours au temps des cerises en 1995. Et côté enregistrement de chansons, mis à part les deux CD qui doivent paraître prochainement, qui reprennent 50 de ses chansons réparties dans les différents 30 cm qu'il a fait. On trouve de disponible aujourd'hui la cantate de Désespoir en Espérance, préfacée par Aragon, avec les textes de ses chansons, au temps des cerises, toujours, une édition de 1998. Et puis on doit aussi pouvoir trouver chez EPM son disque Racine, un CD de 13 chansons, publié en 1993. Côté chansons, vous avez entendu celle que je n'aurais pas voulu faire par Claude Vinci, sur ses paroles et sur une musique de Jean-Claude Petit. Auparavant, vous aviez entendu le déserteur bien connu, donc sur des paroles de Boris Vian, musique de Harold Berg, interprétation de Claude Vinci. Et si quelqu'un peut se sentir autorisé à chanter cette chanson, c'est bien lui. Auparavant encore, vous aviez entendu « Près d'un mouchard » sur des paroles de Georges Leprince, musique de Philippe Gérard, interprétation de Claude Vinci, bien sûr. Et encore auparavant, en début d'émission, vous avez entendu « Je suis né de ce temps », paroles, musique et interprétation de Yves Sartori. C'est donc en renouvelant mes remerciements à Claude Vinci que nous terminons cette émission.
Chante la femme, son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est biston claque. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est biston claque. Qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en main mètre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps. Qu'une chance qu'on les vise, mais on les claque.